Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre première séance ce soir où nous allons attaquer directement les leçons d'une croix en miracle. Tout d'abord, un petit mot sur l'écoute de ces enseignements. Le livre d'exercice fait partie intégrante du curriculum, surtout pour d'une croix en miracle, et les débutants sont invités, ceux qui lisent le cours pour la première fois, sont invités à faire le livre d'exercices qui contient des richesses extraordinaires. Mais une fois fait le livre d'exercices, il n'y a absolument rien qui nous empêche de le refaire, de le relire. Et donc, nous encourageons également les étudiants qui ont déjà fait le livre d'exercices de le refaire. Mais l'écoute n'est pas tout à fait pareille quand nous lisons le cours pour la première fois, quand nous faisons l'exercice, le livre d'exercices pour la première fois, que quand nous le lisons pour la deuxième fois. Tout d'abord, ces cours sont destinés aux personnes qui le lisent, qui le travaillent pour la première fois, aussi bien que les personnes qui ont envie de le refaire. Pour distinguer entre les deux, puisqu'il y a certains enseignements qui seront plus appropriés pour les débuts, pour ceux qui le font pour la première fois, que par rapport à ceux qui le font pour la deuxième fois, je vais, si vous me permettez, distinguer entre les débutants, les étudiants débutants, les étudiants expérimentés. Ces termes ne reflètent bien sûr pas la réalité des choses derrière, puisque les expérimentés comme moi, pourrait facilement dire, moi j'ai envie d'être un débutant ou je me sens débutant. Et il y a des débutants, bien sûr, qui se trouvent à un certain niveau où ils peuvent aussi intégrer des informations ou des enseignements qui sont destinés normalement à ceux qui lisent le livre d'exercice pour une deuxième ou troisième fois. Voilà. Si par contre vous le lisez pour la première fois, les mots d'ordre sont simplicité et légèreté, confort, confiance et ouverture. Le champ d'application de ces idées devrait rester relativement restreint. L'idée n'est pas de faire une application universelle de ces idées, surtout les premières leçons, à toutes les différentes permutations et possibilités d'application de ces leçons. L'idée, c'est de faire un genre de mise en route de l'esprit, surtout avec ses premières leçons, ce qui veut dire entraîner l'esprit à s'ouvrir et à commencer à se poser des questions. Donc, le but est l'ouverture d'esprit à une nouvelle façon de réfléchir, à une nouvelle façon d'apprendre. Par contre, pour les étudiants qui l'ont déjà fait, nous vous invitons à emmener ces enseignements à un niveau plus profond, ce qui veut dire à regarder un champ d'application plus large, plus universel, à plus de situations, à avoir une application totalement universelle de ces principes. Nous vous invitons à aller plus profond dans l'intégration des principes non dualistes du cours, d'essayer d'expliquer, de comprendre ce qui se passe vraiment sur un autre plan de réalité. Nous vous invitons à réfléchir aux vraies causes de votre expérience d'une façon plus profonde et d'une façon plus constante, de laisser glisser moins d'exceptions qui sont permises quand on fait le livre d'exercice pour la première fois. Ce qui veut dire que nous vous invitons également à avoir tort plus souvent sur ce que vous pensez et soit la réalité. Aussi, nous vous invitons à voir votre ego davantage à l'œuvre et pour faire le contraste avec votre grand soi, avec le Saint-Esprit, l'Esprit du Saint-Esprit en vous et le système de pensée de Jésus. Vous allez rencontrer, tout comme les débutants, mais à un autre niveau, un certain inconfort. Vous, les débutants, nous les invitons à reculer, à ne pas insister par rapport à ce niveau d'inconfort. Par rapport aux expérimentés, nous vous invitons à vous appuyer un peu plus dans cet inconfort et à pratiquer notre pratique de l'instant saint que nous avons appris en fin 2025, lors de notre programme La douceur au quotidien ou la pratique de l'instant saint. C'est une pratique très simple où nous constatons, reconnaissons, acceptons, accueillons ces difficultés pour ne pas reculer devant elle, pour le traverser et pour le transformer. Voilà. Donc, juste quelques petites consignes pour vous. Donc, cette leçon, la première leçon, par exemple, je vais diviser en deux parties. Première partie pour les débutants, deuxième partie pour les expérimentés. Ces premières leçons se divisent nettement dans ce sens. Après peut-être la 20e leçon, il y aura moins besoin parce que les informations seront, les enseignements seront aussi bien adaptés pour les expérimentés que pour les débutants. Mais tout au début, ça a vraiment un sens de parler au début uniquement pour les débutants. Maintenant, tournons-nous vers ces leçons, surtout les premières leçons du livre d'exercice jusqu'à la 20e leçon à peu près, sont particulièrement métaphysiques. Et si nous ne faisons pas trop attention, nous pouvons glisser dans un certain inconfort. Et donc, j'invite tout particulièrement les débutants à ne pas vous prendre trop la tête avec ces enseignements. Tout deviendra plus clair plus tard, surtout dans ses premières leçons. Jésus lance des phrases et des idées vraiment très provocatrices sans les expliquer, ce qu'il va faire par la suite. Il commence d'une façon très, très forte, mais il s'explique avec douceur par la suite. Voilà, et même en commençant avec cette première leçon, elle contient vraiment immensément de richesses, comme je vous ai dit, Kenneth trouve, bon, peut-être je ne vous ai pas encore dit, en lisant ce qui est notre base pour ces enseignements sur le livre d'exercice du cours, nous allons nous servir du livre de référence de Kenneth Wapnick, qui s'appelle Voyage dans le livre d'exercice d'un cours en miracle, qui consiste en 8 tomes. Et donc, c'est un travail absolument fabuleux qui sera notre guide dans ce programme. Lui disait que cette première leçon contient la totalité de la philosophie d'un cours en miracle, ce que je vais essayer de vous expliquer tout à l'heure. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec l'inconfort que nous risquons de rencontrer lors de la pratique de ces premières leçons? Comme je vous ai dit, on va juste constater, reconnaître sans reculer et juste accueillir aussi doucement que nous pouvons cette étrange expérience en nous de nous sentir un petit peu bouleversés ou désorientés et aussi bien que nous pouvons ne pas juger notre expérience et de l'accueillir sans peur. Mais maintenant, nous devons commencer effectivement la première leçon. Et voilà, pour la première leçon, au titre très provocateur déjà, rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. Alors, si vous lisez le cours, si vous faites le livre d'exercice pour la première fois, il suffit de faire cette première pratique qui pourrait être autrement assez déroutante, de la façon la plus simple et légère, sans pression et sans hâte. Nous voulons faire cette leçon simplement selon les indications de notre guide Jésus dans ses explications. Nous ne voulons pas faire trop rigoureusement cette leçon à vouloir l'appliquer à chaque objet dans la pièce que nous voyons autour de nous, puisque cela peut effectivement produire un certain inconfort, mais plus encore, nous ne voulons pas pratiquer cette leçon pour qu'elle devienne une rituel. L'idée n'est pas d'utiliser le livre d'exercice pour adopter des rituels. Voilà, ce n'est pas une pratique ritualiste. Donc, nous voulons sélectionner certains objets qui pour être le cible de cette pratique. Nous pouvons entendre un certain commentaire dans notre esprit tout de suite en lisant ce titre, mais ça n'a pas de sens quand Jésus dit rien dans cette pièce n'a le sens de n'a pas la signification. Je pense bien que tout a un sens autour de moi. Jésus n'explique pas le titre de sa leçon. Il n'explique pas le pourquoi de sa leçon ici. Il va l'expliquer par la suite, dans les leçons qui vont suivre. Il voudrait juste que dans un premier temps, nous commencions à ouvrir notre esprit à une façon complètement différente de penser, et considérer la possibilité qu'il y a d'autres façons de penser, et que peut-être notre façon de penser n'est pas la seule et n'est même pas juste. Kenneth Bopnik voudrait néanmoins nous donner deux consignes de pratique pour cette leçon. Tout d'abord, d'éviter autant que possible de juger, de glisser du jugement dans la leçon. Ça veut dire que de juger la leçon, ou de juger les différents objets, ou de nous juger et de juger notre pratique. Si nous arrivons déjà à éviter ce piège du jugement, ça sera fabuleux. Comme il disait, quand il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'ego. Quand il n'y a pas d'ego, cela veut dire qu'il y a la présence du Saint-Esprit, du grand soi, de l'Esprit juste, de l'Esprit de Jésus. Donc ça, c'est déjà fabuleux. Ça sera peut-être difficile d'éviter, et il n'y a aucun problème à tomber dans le jugement de la leçon de nos objets, de nous-mêmes, de notre pratique, etc. Nous voulons simplement observer que c'est ce que nous avons fait. Nous sommes tombés dans le jugement. Essayer autant que possible de ne pas juger le fait que nous avons jugé. Ainsi de suite, si nous jugeons le fait que nous avons jugé, voilà. Essayez de trouver un endroit où nous arrêtons de juger. Et voilà, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Nous continuons notre route quand même. Le deuxième consigne de Kenneth Wapnick est d'essayer d'être attentif au moment quand nous faisons des exceptions. Et nous trouvons des différences où nous appliquons genre d'hiérarchie à notre pratique. Et cela va aussi bien pour les leçons qui suivent, surtout pour la prochaine leçon, d'essayer d'éviter ou au moins de remarquer, de constater quand nous faisons des exceptions, des différences et trouvons une hiérarchie. Cela veut dire, par exemple, pour une exception, on peut s'entendre dire, ben, Jésus ne veut pas que j'inclue tel ou tel objet. Cela ne peut pas être juste. Je connais la signification de cet objet. Pour une différence, on peut s'entendre dire, mais il y a tout de même une différence entre ma main et une lampe ou un stylo. Une autre possibilité, c'est de faire une hiérarchie, comme par exemple de s'entendre dire, ceci a tout de même plus d'importance que cela. Ce n'est pas un problème si nous tombons dans ces pièges d'exception, de différence et d'hiérarchie. Nous voulons juste constater, observer que c'est ce que nous avons fait dans un premier temps. Par la suite, nous aurons maintes différentes opportunités de travailler avec cela. Parlons justement de cette tendance à vouloir trouver des exceptions. Pour vous provoquer un petit peu, nous pouvons regarder notre téléphone ou notre voiture ou notre maison et nous pouvons dire non, cet objet-là a quand même une signification. On ne peut pas dire que cela ne signifie quoi que ce soit. Si oui, ce n'est pas grave, on veut juste observer une certaine difficulté dans notre esprit d'appliquer cette leçon et de comprendre ce que Jésus veut dire par rapport à certains objets. On pourrait même inclure certaines personnes et dire non, non, mais cette personne n'est pas a quand même une signification assez importante pour moi. Ce que nous voulons faire, c'est de constater une certaine difficulté d'application parce que cela va nous aider à savoir qu'il y a une certaine résistance en nous et que nous pouvons d'abord d'emblée savoir à partir de cette première leçon que nous risquons d'avoir certaines difficultés à appliquer ou à comprendre ou à accepter le système de pensée que Jésus nous invite maintenant à accepter. Voilà. Très bien, mais c'est une invitation, cette première leçon est une invitation très subtile à ouvrir notre esprit à une vaste transformation, ce qui va s'effectuer ou qui va se produire par la suite. Maintenant, c'est tout ce qui est nécessaire pour les débutants dans un premier temps. Si vous faites le livre d'exercice pour une deuxième fois, voilà quelques idées qui pourraient peut-être stimuler votre réflexion. Cette première leçon, comme vous pouvez imaginer, comme vous avez peut-être déjà deviné, va vraiment au cœur de la métaphysique d'un cours en miracle, où Jésus essaye de nous dire, mais mon petit, en quelque sorte, sans être péjoratif du tout dans cette façon de faire, ou rabaissant, pas du tout. Il nous invite vraiment à savoir que tout ce que nous avons cru savoir n'est pas juste. Voilà, et nous devons, c'est un processus de désidentification. Il nous invite à aller plus loin dans cette désidentification. Donc, si vous faites cette leçon pour une deuxième fois, je vous invite d'aller un petit peu plus loin, élargir le champ d'application et d'essayer de réfléchir plus profondément à ce qu'il essaie de dire ici. Nous pouvons voir, si nous réfléchissons bien, que nous faisons quand même automatiquement une hiérarchie ici. Je vous le provocateur. Et si vous étiez vraiment capable d'appliquer cette leçon de la manière dont Jésus voudrait, vous feriez aucune différence entre, comme selon cette leçon, votre stylo et votre main. Or, casser un stylo, ça va, ça ne nous chagrine pas trop, mais casser notre main, non, on ne sera pas d'accord. Il y a d'autres exemples aussi. Jésus a essayé de nous dire dans cette leçon que notre corps a quasiment la même importance qu'une lampe. Or, nous ne considérons, nous verrons pas les choses de la même façon. Et pourtant, c'est comme ça que notre grand soi, comme ça que le Saint-Esprit voit les choses de leur point de vue, bien au-delà de ce monde. C'est que les choses n'ont pas la même valeur et sens que nous leur avons donné, on a eu l'habitude de leur donner. Et on a essayé de faire un petit effort supplémentaire pour essayer de comprendre les choses de leur perspective, d'essayer d'imaginer, mais comment est-ce que ça pourrait être possible qu'une lampe peut avoir la même importance et une signification qu'un corps? C'est normal. Dans un premier temps, de connaître un certain inconfort, un inconfort peut-être grandissant en faisant ce genre d'exercice, mais nous voulons tant que les étudiants qui ont un peu de bagage à essayer de percer cet inconfort et comprendre ce qui est derrière. Ce qui est derrière, c'est toujours un problème avec notre identification, avec nous-mêmes en tant que ces corps. Casser un stylo, oui. Casser cette main ou ce corps, non, parce que je pense l'être. Je ne pense pas comme selon la leçon, je suis pur esprit, que je sois pur esprit et rien d'autre. Si nous faisons encore un genre d'hierarchie ou différence entre notre corps et un objet, c'est simplement parce que nous ne sommes pas encore assez avancés dans ce processus de désidentification avec le corps. Et c'est bien de le savoir et nous pouvons utiliser cette leçon comme un rappel très puissant de cette difficulté de désidentification. Après quelques années de pratique avec le cours, peut-être nous allons pouvoir dire et ressentir avec plus de sincérité que oui, mon corps n'a pas plus de signification que notre objet. Pour l'instant, ça me chagrinerait bien plus de voir mon corps dans un lit d'hôpital que la lampe chez le bricoleur pour une réparation. Mais néanmoins, je peux constater que d'un certain niveau plus métaphysique, oui, je peux voir que mon corps n'est pas vraiment plus important qu'une pierre ou qu'un autre objet. Poussons cette idée plus loin, essayons de voir les différents niveaux de résistance dans notre esprit à appliquer cette idée. Voilà, nous pouvons imaginer que ce monde contient encore des différences et une certaine hiérarchie de valeurs que nous n'avons pas encore tout vu. Donc, je vais essayer de stimuler votre réflexion ici, pour ceux qui ont déjà fait cette leçon une fois. Voici quelques idées. J'aimerais bien que vous réfléchissiez, vous les écoutiez ces idées d'une façon plus profonde, plus élargie dans le champ d'application, à vous imaginer vraiment essayer d'adopter cette perspective de Jésus et de voir la réaction que cela produit en vous. C'est ce qui sera ma question pour vous tout à l'heure. Qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez en essayant d'imaginer que cette idée soit vraie? Et je peux vous inviter déjà à mettre vos idées dans le fil de chat. L'idée ici est que je vais élargir le champ d'application de cette idée. J'aimerais bien que vous voyez comment ça réagit en vous et d'être attentif à ces réactions. Si vous étiez pleinement dans le Christ en vous, dans l'Esprit de Jésus, totalement intégré dans le Saint-Esprit, alors vous allez entendre ces phrases sans le moindre difficulté, sans la moindre réaction. Mais si nous n'y sommes pas encore, il n'y a pas de mal non plus, il n'y a pas de problème à ne pas encore être au niveau de Jésus ou du Saint-Esprit, essayez de saisir la petite réaction en vous et, si vous voulez bien, le mettre dans le fil de chat pour que je puisse le lire pour d'autres personnes. En continuant avec le même thème, rien de ce que je vois dans cette pièce ne signifie quoi que ce soit. On peut aussi dire rien de ce que je vois à cette réunion de travail ne signifie quoi que ce soit. Rien de ce que je vois sur mon relevé bancaire ne signifie quoi que ce soit. Si vous ressentez quelque chose, une signification, une importance, quand vous regardez votre relevé bancaire, vous pouvez juste mettre une petite réaction dans le fil de chat, un petit OK ou un petit ben non, je ne serais pas tout à fait d'accord, pas encore. Rien de ce que je vois sur ce bilan de santé ne signifie quoi que ce soit. Rien de ce que j'ai entendu à la radio ce matin n'a signifié quoi que ce soit. Rien de ce que je vois à la télé ne signifie quoi que ce soit. Rien de ce que j'ai vu dans ce documentaire ne signifie quoi que ce soit. Rien de ce que je lis dans le fil des infos en ce moment ne signifie quoi que ce soit. D'accord ou pas d'accord. Rien de ce que je vois dans ce monde ne signifie quoi que ce soit. Rien de ce que je vois dans ce miroir ne signifie quoi que ce soit. Rien de ce que je vois dans tout cet univers ne signifie quoi que ce soit. Du point de vue de Jésus, d'un Jésus, du Saint-Esprit, de votre propre grand soi, nous sommes capables de voir la parfaite égalité entre toutes ces choses, la parfaite non-importance du point de vue de notre ego de toutes ces choses. Mais peut-être que nous n'y sommes pas encore, et ça serait bien de le savoir. Où sont encore les différentes où sont les différences que nous voyons autour de nous? Où sont les différentes valeurs? Où sont les différentes difficultés que nous voyons autour de nous? Je vois qu'il y a plusieurs réponses qui sont entrées maintenant. Je vais prendre une minute pour lire quelques-unes de vos idées. L'argent et la maladie ont le plus de résistance. Merci. Il peut effectivement avoir, par exemple, si je vous présente cinq différents domaines d'expérience, vous pouvez réfléchir Dans quel domaine vous risquez d'avoir plus de difficultés à appliquer cette idée? Le domaine de l'argent, le domaine de la santé, le domaine des relations, le domaine du travail, le domaine du monde en entier, d'autres groupes de personnes, d'autres pays, des événements sur la planète en général. Donc argent, travail, relations, santé, monde. Dans quel domaine, quel aspect de ce monde et de votre vie est-ce que vous auriez plus de difficultés à appliquer cette idée? Je lis vos suggestions. Moi, ça me soulage de me dire que rien ne signifie quoi que ce soit, mais cela dépend des moments. Très bien, merci. Une autre réaction inverse, cette idée, attachement forte à ceux qui me touchent de près. Ça sera une réaction tout à fait logique et compréhensible. Encore une autre, cela voulait dire que mon fils a la même valeur qu'un stylo. C'est difficilement acceptable, voire vertigineux, le concept, je le comprends, mais l'imaginer dans ma vie, c'est quand même autre chose. Très bien, merci Loïc. C'est ce genre de réaction que j'aimerais bien solliciter en quelque sorte, qu'on peut imaginer comment cela peut être vrai d'un point de vue totalement métaphysique, mais de notre point de vue tout à fait humain, ça semble, comme tu dis, vertigineux, même peut-être effrayant. Et donc Jésus ne nous demande pas, et Kenneth le dit aussi dans son livre, Voyage dans le livre d'exercice, il ne nous demande pas d'abandonner notre système de valeurs, d'abandonner notre investissement dans nos relations, etc., comme si cela n'a pas de signification, ni de garder tout cela en place, mais commencer à reconnaître le système de pensée de l'ego qui est à l'œuvre derrière. C'est-à-dire, à la fin, une fois que nous avons appris toutes nos leçons de pardon et nous avons totalement intégré la métaphysique du cours, au moment que nous fusionnons notre esprit avec celui de Jésus et du Saint-Esprit, nous allons voir, par exemple, que nos proches, que nos enfants, nos parents, nos partenaires de vie faisaient simplement partie de ce même rêve que nous, que leur réalité, peu importe ce qui arrive à leur corps, est totalement intacte à chaque instant, puisque leur vraie vie se situe ailleurs et la vraie vie n'est pas ici. Nous nous attachons encore énormément d'importance aux objets ici, comme nos corps, comme les corps de nos proches, mais qui sont les objets ici dans un genre d'illusion. Nous n'avons pas encore accepté ou vu comment cette vie ici, ce monde ici, puisse être juste une illusion, une représentation. Mais le jour que nous puissions accepter cette idée et l'intégrer au fond de nous, nous aurions une toute autre ressenti et expérience de nos relations, de tout, du question de travail, même de ce monde tout entier, même des guerres chez nous ou à l'extérieur dans d'autres pays. Nous aurions une toute autre expérience. Mais ce que nous voulons savoir pour l'instant, c'est là où nous sommes et constater que nous sommes à un certain niveau, mais c'est juste un certain niveau qui se travaille. Nous sommes sur le chemin. Ici, Jésus nous invite à juste aller un petit peu plus loin chaque fois que nous refaisons cet exercice, essayons de le refaire d'une façon un petit peu plus profonde pour voir où est-ce que nous en sommes, à quels objets est-ce que nous continuons à donner encore beaucoup de réalité, beaucoup d'importance, où est ma hiérarchie de valeurs. Voilà, parce que nous sommes sûrs qu'il y a d'autres personnes ici qui donnent une grande importance aux choses autour d'eux, ce qui est aussi, selon Cours Miracle, une erreur, mais une erreur que nous pouvons comprendre. Maintenant, la façon dont d'autres personnes donnent une valeur aux objets dans leur vie n'est pas forcément la même que la nôtre, mais c'est la même erreur. Donc, quand nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont d'autres personnes donnent une valeur à d'autres choses qui ne correspondent pas avec notre système de croyances, notre système de valeurs, notre système de pensée. Au lieu de critiquer et les juger, nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre combien c'est difficile de changer notre système de valeurs, voire de l'abandonner totalement. C'est l'invitation ici pour les expérimenter, c'est d'aller un peu plus loin et voir l'application universelle de ces idées. Et ça commence à être, comme tu dis si bien ici, Loïc, vertigineux. Je commence à lire vos suggestions. La santé et finances, beaucoup plus compliqué pour moi de voir que cela n'est pas de signification. Encore une autre personne, ces paroles ont du sens quand on vit le monde non manifeste, le non manifesté, mais cela reste intellectuel, ce ne peut être intégré dans le manifesté, donc ça paraît inatteignable. Très bien, merci. Justement, notre but ici n'est pas de faire un exercice intellectuel. C'est pour ça que je vous invite à vraiment ressentir ce qui se passe dans les tripes. De ne pas faire en sorte que ça soit juste un exercice intellectuel. On dit oui, je comprends un certain niveau. On veut savoir que ce n'est pas du tout ce qu'on vit et cela semble même insultant à un certain niveau de dire qu'effectivement mon fils a la même signification qu'une lampe. Et ce n'est pas ce que Jésus voudrait qu'on fasse ici. Nous sous-estimons la valeur de chaque chose. Ce n'est pas que ces choses-là n'ont aucune valeur en vérité. C'est que nous ne voyons pas la vraie valeur qu'elles ont. Ce que nous allons comprendre plus tard, c'est que la vraie valeur de chaque chose, la vraie signification de chaque chose est le pardon. L'ego a donné un sens à chaque chose, à chaque objet, qui correspondent à son système de pensée de séparation. Il veut utiliser chaque objet pour renforcer son système de pensée, de différence, d'hierarchie, pour alimenter ses relations particulières, pour trouver les objets qu'il lui faut pour exister, pour satisfaire ses besoins personnels et pour éviter les choses qui risquent de nuire à son bien-être. Donc, relation d'amour particulière, relation de haine particulière. Nous appliquons un système de valeurs à tous les objets autour de nous selon ce système de pensée de l'ego. Ainsi, les objets, les relations ont une certaine valeur pour nous qui semble indéboulonnable, pardon, inchangeable. Et cela semble ridicule de vouloir suggérer que toute chose porte la même signification. Or, dans un cours en miracle, nous sommes invités à remplacer notre façon extrêmement utilitaire de voir les choses de par nos besoins personnels, les besoins de notre ego, par le prisme du pardon, qui est une invitation à lâcher prise de nos besoins et de lâcher prise de nos jugements de chaque chose. De nos besoins, ça vient de nos relations d'amour particulières, relations de dépendance, de lâcher prise, de dire j'adore ma famille, mais je voudrais communiquer un amour tellement inconditionnel que même s'ils doivent me quitter, je comprendrai et je les aimerai quand même. Je comprendrai mes ennemis, leur besoin de vouloir me faire mal. Je comprendrai, au lieu de les juger, au lieu de les critiquer, au lieu de vouloir les condamner, ce qui va juste alimenter le même système de pensée que mes ennemis. Donc, ce que nous allons faire petit à petit, c'est d'identifier notre système de valeurs avec une leçon comme celle-ci et de remplacer ces valeurs qui sont les valeurs de l'ego, les perceptions de l'ego. Donc, ce n'est pas juste, ce n'est pas un jeu intellectuel ici. C'est un jeu d'identification du système de pensée que nous avons toujours suivi et nous sommes en train d'appliquer à tout dans cette vie. Et dire et savoir, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais tous les jours. Je trouve les personnes qui me font du bien et je vois beaucoup de personnes aux infos qui ne me font pas du bien, s'ils ne font pas du bien à d'autres personnes. Je me permets de trouver une grande différence entre les personnes qui me font du bien, les personnes qui ne font pas du bien autour d'eux. Ce n'est pas ainsi que Jésus voit les choses. Il voit que des enfants méritants de l'amour de Dieu. Nous pouvons imaginer un Jésus aimer les personnes que nous considérons particulièrement indignes d'être aimées. Nous pouvons imaginer cela. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'aller vers Jésus et lui demander de l'aide pour apprendre à aimer et à voir et ressentir comme lui, il aime, il voit, il ressent. C'est ainsi que nous allons abandonner une application purement intellectuelle de cet exercice et d'en faire quelque chose d'extrêmement personnel, intime, et expérimenté au plus profond de nous, éprouvé dans nos tripes. Nous voulons savoir, il est possible, par exemple, à la fin, de tout aimer inconditionnellement. C'est ce qui va donner un vrai sens à chaque objet. Pas le sens, c'est pour remplacer les significations que nous avons données à chaque objet. J'essaie de voir si je peux continuer à lire encore quelques-unes de vos suggestions. D'accord avec tout sauf le corps malade qui entraîne de grandes douleurs. Encore, c'est possible de vivre nos difficultés différemment. Ce n'est pas pour ignorer et dire ça ne signifie quoi que ce soit, mais de traverser la signification que j'ai donnée à mon corps et à mes douleurs. Si mon corps va mal, peut-être je vais mourir. Et travailler avec ma peur de ma mort, la peur de la perte que vont ressentir mes proches. Il est possible de travailler avec tout cela et de voir à la fin que mon corps pourrait partir sans que cela soit un si grand événement pour moi et pour les autres autour de moi. J'y vois une question où je vais essayer de revenir dessus plus tard. Merci Kim. Est-ce aussi valable de dire rien de ce que je lis dans le cours en miracle ne signifie quoi que ce soit? Dans un sens, oui, mais je vais revenir dessus encore après Catherine. Merci. Encore une autre personne qui dit ça reste mental. Dites-moi, ces personnes qui ont dit que c'est mental et intellectuel, dites-moi après ce que je viens d'expliquer, si vous trouvez que c'est toujours mental. Je voudrais aussi bien que je peux ramener ça à un niveau vraiment du vécu et du possible, de voir ce vers quoi Jésus nous guide. Il y a, ce n'est, voilà, je vais continuer à lire, peut-être que vous allez me répondre à ma question. Domaine de l'argent, des relations, relations de santé, un peu de mal à accepter, sinon les autres sujets, ça soulage. Argent, relations, surtout famille. Le plus dur, c'est la souffrance des enfants, les personnes que j'aime. Ouf, ah, il y a effectivement beaucoup de... Oui. Une personne qui dit ça m'oppresse et m'angoisse, j'ai l'impression que le monde disparaît. Très bien, d'accord. Bon, on va essayer. J'invite cette personne à juste essayer de traverser ce sentiment, à l'accueillir, à accepter que ce soit là. Ça ne pourrait accepter aussi que ça ne pourrait pas possiblement être le but de Jésus, c'est de nous faire flipper et d'avoir peur que tout va disparaître. Il y a une réalité extraordinaire et extraordinairement douce et accueillante autour de nous à chaque instant. Recevoir et comprendre cette réalité nous demande de mettre en question la façon dont nous relationner, la façon dont nous sommes avec chaque objet, chaque situation. Cette leçon nous invite à faire cela, à voir le rapport que nous avons établi avec chaque objet et de mettre ça en suspens et dire peut-être je ne sais pas tout. Peut-être il y a une autre signification, il y a autre chose. La prochaine leçon, c'est que j'ai donné à tout autour de moi, toute la signification que cela a. Mais je vais de me devancer si je vous parle de ça. Donc, on y va doucement. On y va doucement. Donc, j'ai dit que si c'est très bien que vous êtes Vous êtes allé jusqu'à ce niveau d'inconfort dont j'ai parlé tout à l'heure, mais je ne voudrais pas non plus que vous y restiez trop longtemps. Kenneth nous disait d'aller jusqu'à ça devient vraiment, ça coince un petit peu, puis de reculer. Donc je vous invite à aussi ne pas fuir, mais de juste essayer de ressentir cela, sachant que ça ne pourrait qu'être dans le domaine de l'ego, ce qui n'est pas un problème. Nous y sommes tous, mais qu'il y a aussi une autre façon de le recevoir, de le garder, de tenir tendrement dans nos mains, avec tendresse, et de voir notre peur de voir beaucoup de choses disparaître autour de nous. Or, nous allons simplement remplacer la valeur actuelle des choses avec quelque chose d'infiniment plus important. Infiniment plus important. Nous allons donner plus d'importance à ces choses, mais une autre importance, pas l'importance que notre ego a donnée à ces choses. Je vais malheureusement pas avoir le temps de lire toutes vos suggestions qui sont très bien, très très perspicaces. Donc, je laisse les personnes qui sont ici ce soir à réfléchir à ce qu'ils voient sur l'écran. Ce que je voudrais aussi vous emmener dans une méditation tout à l'heure, vous guider dans une petite méditation. Pour continuer, comme je vous ai dit tout à l'heure, Kenneth Botnick trouve que cette leçon contient quasi l'essence d'une cour miracle lui-même. Et il nous parlait de deux extraits qui éclairent cela. Le premier principe des miracles parle de quasiment le même principe qui est à l'œuvre ici. Je vous le lis, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Aucun n'est plus dur ni plus gros que l'autre. Ils sont tous les mêmes. Toutes les expressions d'amour sont maximales. Il n'y a pas de miracle qui est plus important, qui est plus gros, qui est plus dur que l'autre. Donc, cette première leçon est une invitation à enlever l'idée d'hiérarchie et des difficultés et des différences de notre esprit pour pouvoir nous ouvrir à une toute autre réalité autour de nous où nous pourrions voir le miracle qui est la correction de nos erreurs, la correction de la cruauté, de la douleur, de l'abandon, du trahison. Il y a une magnifique correction derrière, mais qui sera possible uniquement quand nous commençons à mettre en question notre façon de voir les choses et à voir la signification de l'interprétation que nous avons donnée à toute chose. Prenez par exemple une blessure que vous avez eue. Si vous continuez à donner la signification que vous avez toujours donnée à cet événement, vous ne serez pas ouvert au pardon, à la guérison, au miracle. Donc, dans un premier temps, en regardant cette blessure, je pourrais dire, ce que je vois dans le souvenir de cet événement ne signifie quoi que ce soit. D'essayer de faire cela comme une ouverture, comme Jésus qui nous invite à dire, peut-être tu ne comprends pas tout dans cette situation de blessure, ou de trahison, ou de perte, ou de deuil, ou de maladie, ou de mort, ou de barbarie, ou de cruauté. Tout ce que je vois sur ce champ de bataille ne signifie pas tout ce que cela a signifié pour moi. Encore, la première loi du chaos dans le chapitre, dans la section, les lois du chaos, le chapitre 23, section 2. La première loi chaotique est que la vérité est différente pour chacun. Ce principe se développe à partir de la croyance qu'il y a une hiérarchie d'illusions. Certaines ont plus de valeur et donc sont vraies. Donc très doucement, Jésus, par cette première leçon, les premières leçons, nous invite à considérer la possibilité que les choses n'ont pas cette hiérarchie, ce système hiérarchique derrière, qu'il y a une réalité d'un côté, une illusion de l'autre. Et il va nous aider progressivement à faire la part des choses et à guérir ces différences. Très bien. Il y avait aussi une question très intéressante ici par rapport à les questions d'avoir tort ou avoir raison. Est-ce que quand dans cette première leçon, on a l'impression que Jésus enlève la signification, l'importance que nous avons donnée à toute chose, et ça peut être un peu confrontant pour nous, un peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, insultant. Et il vous vient peut-être à l'esprit cette fameuse phrase du cours, préfères-tu avoir raison ou être heureux? Ce qui veut dire que pour être heureux, nous allons devoir accepter d'avoir tort. C'est ce qu'il suggère ici. Et effectivement, ça sera difficile d'apprendre les choses si nous insistons à nous donner raison. Et cette leçon va dans le sens de tout ce mouvement du cours qui est de nous encourager à être plus amène, plus ouvert à l'idée d'avoir tort. Pour pouvoir apprendre une nouvelle réalité qui va à l'encontre de ce que nous avons toujours cru. Nous n'allons pas pouvoir garder le même système de pensée, les mêmes croyances, les mêmes blessures, les mêmes souvenirs, les mêmes interprétations et accepter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va contredire énormément de choses que nous avons vécues. Nous avons vécu à travers nos interprétations. Donc voilà une première vraie invitation franche à ouvrir notre esprit à d'autres possibilités. Très bien, mais je pense que j'avais autre chose que j'avais envie de faire avec vous, mais je pense que ça sera mieux si nous passons du temps maintenant à juste nous reposer dans une méditation pour essayer de recoller les morceaux de notre perception et de notre esprit ici et retrouver un peu de tranquillité et de bonheur et de paix. Et donc, si vous voulez bien, j'aimerais bien vous guider dans un petit moment de détente et de paix. Et cette méditation va aussi terminer la séance pour ce soir, puisque le temps passe vite. Nous sommes bientôt à la fin de cette première séance sur les leçons. Et je vais terminer cette méditation avec un passage de la deuxième section du chapitre 17. Très magnifique petit passage. Donc, si vous voulez bien vous reposer avec moi quelques instants, et pour cela, vous pouvez juste baisser les yeux ou fermer les yeux et trouver une position confortable, qui vous aide néanmoins à rester éveillé. Je voudrais bien vous inviter donc à fermer les yeux et à commencer à ressentir l'intérieur de votre corps. Quelle est la condition de votre corps à cet instant? Qu'est-ce que vous ressentez intérieurement? Et vous juste mettre un ou deux mots dessus. Détendu ou tendu ou autre chose. Essayez de ressentir vos pieds au sol, vos mains peut-être sur vos genoux. Et ressentez le doux mouvement de l'air qui entre et qui sort de vos poumons. Et commencez à apprécier le silence entre mes mots. Et à juste vous détendre dans cet endroit confortable. Et peut-être un endroit où vous avez l'habitude de vous reposer. votre sanctuaire intérieur. Peut-être vous avez l'habitude d'y aller quand vous faites vos leçons ou quand vous priez. Et maintenant, je nous invite à revenir à cette leçon. Mais en nous souvenant que l'objectif de notre guide Jésus est de nous accompagner de la façon la plus douce et aimante vers une nouvelle perception de la réalité autour de nous. Nous pouvons effectivement constater un certain inconfort ou difficulté. À l'idée que les choses et les personnes, les situations et les événements ne contiennent pas tout à fait la même signification que nous leur avons toujours donnée. Cela ne va pas dire qu'ils n'ont aucune signification, mais peut-être que nous avons mal compris le vrai sens de ces situations, de ces événements, de ces objets et de ces personnes. Et donc Jésus, dans cette première leçon, nous invite à savoir que peut-être que nous nous sommes trompés. Ces situations, ces personnes, ces relations ne contiennent pas la signification que nous leur avons donnée. Et si cela produit un inconfort en nous, néanmoins, de penser que peut-être nous nous sommes trompés, mais qu'il y a tout de même une autre signification, si cela produit un inconfort pour nous, de rester ici quelques instants avec cet inconfort. Sentiment de peur, d'angoisse, de frustration, de contrariété ou même de colère, ou un sentiment de perte pensant que Jésus nous enlève quelque chose, ce qui ne pourrait jamais être le cas. Jésus ne nous enlève rien sauf ce qui nous fait mal. Et essayons de bercer cet inconfort, de l'accueillir. Il n'y a rien de mal à éprouver un inconfort à l'idée que rien de ce que nous voyons ne signifie pas quoi que ce soit. Du moins, ne comporte pas la signification que nous avons donnée à ces objets, à ces situations. Restons avec cet inconfort quelques instants. Pour ne pas en avoir peur. Ici, cela devient trop Revenons à notre respiration, portant toute notre attention sur le doux mouvement de notre respiration, le temps de laisser passer cet inconfort. Essayons de revenir à un sentiment d'être accompagné ici par notre guide qui ne nous laisserait jamais tomber. Comme notre guide nous dit dans une leçon bien plus loin, ce monde ne contient rien que je veuille. Mais la leçon tout de suite après, c'est il y a un monde qui contient tout ce que je veux. L'idée n'est pas d'enlever quelque chose, mais d'ouvrir notre esprit à la possibilité d'autre chose, à la place de ce que nous avons toujours vu. Essayons de ressentir un peu de confiance dans notre guide. Et de nous souvenir qu'il ne veut que notre bien. Et nous pouvons faire ces exercices au rythme qui nous convient. Il n'insisterait jamais d'aller plus loin que ce qui reste encore faisable et confortable pour nous. Acceptons maintenant son aide pour chasser nos anciennes pensées, nos anciens jugements, pour lâcher prise de tout ce que nous avons toujours cru. Ce mouvement s'appelle le pardon. Nous sommes capables de voir ce monde à nouveau et à accueillir les autres comme des vrais frères et des vraies sœurs. Une fois que nous avons commencé à ouvrir notre esprit à d'autres possibilités. Et voici ce que Jésus nous dit dans la deuxième section du chapitre 17. Peux-tu imaginer comme ils seront beaux à tes yeux ceux à qui tu pardonnes? Tu n'as jamais rien vu d'aussi beau dans aucun fantasme. Rien de ce que tu vois ici, endormi ou éveillé, ne se rapproche d'une telle beauté. Et il n'est rien que tu estimeras autant, ni qui te sera aussi cher. Rien dont tu te souviennes et qui a fait chanter ton cœur de joie ne t'a jamais apporté même une parcelle du bonheur que cette vue t'apportera. Eh bien, si vous souhaitez continuer dans l'atmosphère de cette méditation, je vous invite à baisser le son sur votre appareil ou à quitter cette séance. Si vous souhaitez continuer la séance, je vous invite à mettre un peu de mouvement dans vos articulations, dans vos mains, dans vos pieds, vos épaules. À bouger votre nuque et votre tête un petit peu. quand vous vous sentez prêt d'ouvrir vos yeux. Merci beaucoup d'avoir été présente pour cette première leçon. Je pensais bien que ça allait nous prendre un certain temps quand j'ai lu que Kenneth disait que c'était une leçon qui résume la philosophie tout entière du cours avec ses différents extraits. J'ai vraiment ouvert mon esprit à tout ce que cette leçon pouvait dire et nous apporter. Et j'ai vu effectivement énormément de richesses. Les autres leçons par la suite, nous allons pouvoir les faire avec peut-être un petit peu plus facilement, plus rapidement. Nous allons commencer bientôt, tout de suite, la deuxième partie de notre séance où je serai très heureux de vous écouter, si vous avez envie de partager avec moi. Si je peux aussi glisser un petit mot par rapport à notre fonctionnement. Comme vous le savez peut-être, nous pouvons offrir ces cours, ces ressources, ces vidéos, ces fiches pratiques uniquement grâce à l'aide de nos contributeurs. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une école, si vous voulez, formellement parlant, avec un système d'abonnement et de tarifs pour la scolarité, nous avons nettement préféré un modèle de contribution libre où chacun donne selon déjà ses moyens, selon aussi son rythme de travail avec nous, et aussi le bienfait que ses enseignements procurent pour lui ou pour elle. Nous avons adopté ce système aussi pour être plus flexible pour les personnes qui ont des moyens vraiment limités, à savoir qu'en même temps que nous avons vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer ce travail. Donc, si vous avez envie, si vous pouvez nous soutenir financièrement, ce qui est vraiment le sujet ici, nous vous invitons à aller sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet Contribuer. Ou si vous regardez ceci en replay, il suffit de cliquer sur le petit bouton plus. Ici, quelque part dans le descriptif, où vous trouverez le lien direct sur lequel vous pouvez cliquer et vous serez guidé automatiquement vers la page pour contribuer. Et nous sommes très heureux, bien sûr, de recevoir votre soutien qui nous aide de la façon plus pratique à nous projeter dans l'avenir pour préparer et offrir ces enseignements sur le livre d'exercice. Donc, merci beaucoup d'avance. Très bien. Maintenant, pour ceux qui sont ici pour la première fois, nous sommes dans la deuxième partie de cette séance, et vous avez la possibilité d'ouvrir votre microphone. Il suffit de cliquer sur le petit bouton micro quelque part pour l'activer. Si vous avez envie de partager une remarque, un commentaire, un retour d'expérience sur cette leçon, je serai très heureux de parler avec vous. Sinon, de poser votre question dans le feed de chat. Et j'ai vu qu'effectivement, il y avait déjà quelques questions qui ont été posées. Je vais essayer de les rattraper. Question. Est-ce que ce que l'on voit, c'est l'ego qui le voit alors? La petite confusion là, c'est que nous sommes toujours soit l'ego, soit le Saint-Esprit. Il n'y a que deux enseignants dans la philosophie d'un cours miracle, nous voyons soit à travers les yeux de séparation et donc de relations particulières, ou les yeux de paix, les yeux de Jésus, du Saint-Esprit, de l'Esprit juste, de notre grand soi. Donc, la question est plutôt, est-ce que je vois avec les yeux de la paix ou les yeux du conflit et du besoin? Et donc, la réponse devient très simple à ce moment-là. Je vois bien avec l'ego si je ressens un danger ou des besoins. Même du bonheur, l'ego peut ressentir du bonheur, mais c'est un bonheur conditionnel qui vient d'une personne spécifique, d'une situation spécifique, d'un lieu spécifique. Si c'est ce genre de bonheur et de paix, c'est le bonheur et la paix de l'ego qui est très conditionnel, ce qui veut dire c'est une relation d'amour particulière. Est-ce que ce que l'on voit, c'est l'ego qui le voit alors? Oui, si il y a un sentiment de besoin ou de danger ou de manque ou de bonheur conditionnel. Sinon, si c'est juste un bonheur simple, pour aucune bonne raison, entre guillemets, si je me sens plutôt détendu et en confiance, peu importe ce qui se passe, et si je ressens un genre de paix, mais une paix et une affection pour tout le monde, une ouverture d'esprit pour tout le monde, je peux imaginer que mon esprit, j'ai invité mon esprit à aller vers le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus, mon grand soi ou l'esprit juste, qui sont tous quatre façons différentes de parler du même état d'esprit, si vous voulez. J'essaie de. Je défile sur le fil de chat pour voir, il y avait une autre question. Question, est-ce qu'on peut tout regrouper en nous disant rien de ce que je pense ne signifie quoi que ce soit? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des leçons dans ce sens-là. Aussi, j'essaie de voir maintenant. Mais tout à fait, rien de ce que je pense ne signifie quoi que ce soit. Mais Jésus voudrait dire, si je pense avec l'ego. Parce que quand je pense avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit juste ou avec le grand soi, cela signifie quelque chose et cela signifie le pardon, l'amour, la paix universelle pour chacun, etc. Quand je pense avec l'ego, je pense en termes de mes besoins, de ma particularité, du danger pour moi, ou du bien-être pour moi personnellement, à ce moment-là, on peut dire que cela ne signifie quoi que ce soit, puisque l'ego n'est rien. Or, le Saint-Esprit est quelque chose, ou est aussi proche de quelque chose qu'on puisse être dans une illusion. Mais l'ego n'est certainement rien dans une illusion. Or, le Saint-Esprit, l'esprit de la paix, et quelque chose dans le sens qui nous emmène au-delà de l'illusion. Ça reste dans l'illusion, mais ça nous guide au-delà de l'illusion, tout comme la pensée du pardon. Donc, pour revenir à ta question, est-ce qu'on peut tout regrouper en nous disant rien de ce que je pense ne signifie quoi que ce soit? Oui, c'est du domaine de l'ego, mais par exemple, si c'est une pensée de pardon, on va dire, ben non, il y a quand même une certaine signification des guérisons. Ouais. La signification de l'ego, c'est de séparer, d'accuser, de blâmer, de juger, de différencier, d'hiérarchiser. Cela n'a aucun sens, cela n'a aucune réalité. Or, le pardon a une certaine réalité, aussi bien encore qu'on puisse avoir une réalité dans une illusion, puisque cela nous guide vers l'amour derrière l'illusion. Ouais. Et Catherine qui a demandé, est-ce aussi valable de dire rien de ce que je lis dans le cours en miracle ne signifie quoi que ce soit? Encore, si on lit par les yeux de l'ego, tout à fait. Et l'ego peut faire un bon travail, pas un bon travail, mais peut travailler assidueusement un cours en miracle. Si je le lis avec mon esprit juste, cela a une signification pour moi. On pourrait dire, ça a une signification, mais pour qui? Si c'est pour moi personnellement, pour alimenter mes besoins de reconnaissance, de pouvoir dire, moi, je fais ce super cours, je suis super intello, je fais un truc comme d'autres personnes, pas comme d'autres personnes, on peut dire que c'est n'importe quoi, c'est rien du tout, puisque l'ego, à la fin, est une illusion pure. Si je m'en sers vraiment pour pardonner, je base mon travail dans le cours, aussi bien dans la réalité qu'on puisse être dans l'illusion. Ce qui est une question un petit peu comme celle de Kim tout à l'heure. Merci Catherine. Et j'essaie de voir s'il n'y avait pas une autre question, parce que il y avait pas mal de commentaires, en fait, que j'ai pas pu lire. Non, je crois que c'était les seules questions. Je ne sais pas si peut-être je... Il n'y a pas encore, je n'ai pas encore vu un micro ouvert, mais si vous avez envie de poser une question par rapport au cours, par rapport à cette leçon, par rapport à une autre leçon, par rapport à votre expérience, puisque j'ai vu que ça n'avait pas été confortable pour plusieurs personnes, la personne qui a dit que c'était un peu oppressant, que je connais, je ne dis pas son nom si elle n'a pas envie de venir me parler, mais j'aurais été ravi de lui parler. J'essaie de voir, d'accord avec tout sauf le domaine de l'argent, des relations, le plus dur, c'est la souffrance des enfants. Oui, et encore, le plus dur pour les souffrances des enfants, j'ai eu entendu d'autres personnes dire la cruauté envers les animaux, des situations vraiment extrêmement, extrêmement compliquées ici. Et nous voulons vraiment faire ce chemin aussi progressivement et doucement que nous puissions faire. L'idée n'est pas de nous pousser dans nos retranchements et trouver des situations les plus dures quand je suis en stage. Et j'invite des différents groupes de travail, nous travaillons en groupe souvent, de penser à une situation qui provoque certaines émotions, certaines réactions en eux pour travailler avec, pour les décortiquer un petit peu ce qui se passe en chacun. Souvent, ils trouvent des situations absolument effroyables, le plus dur, le plus difficile sur Terre. Donc, nous n'avons pas besoin de travailler avec les situations aussi dures. Nous avons besoin de bien travailler avec les situations dans notre quotidien qui nous affectent personnellement. Et souvent, les conditions ou les situations plus banales qui sont parfois aussi difficiles pour nous personnellement à déloger et à voir différemment. Kenneth nous invite à travailler avec ces petites situations de la vie et nous entraîner avec. Pardon. Et d'apprendre avec et d'adopter ce nouveau fonctionnement intérieur, cette nouvelle façon de voir ce qui est la remise en question de notre perception, la remise en question de notre expérience, de notre douleur, la remise en question de notre psyché personnelle, de ce qui est en nous qui souffre et qui interprète par les yeux de la souffrance, le psyché en moi qui est attaché à son corps et qui n'arrive pas à relativiser sa souffrance physique. Par exemple, quand on fait une énorme histoire d'un rhume ou de s'être fait mal à un doigt ou quelque chose, on embellit vraiment, on exagère des fois notre douleur, notre peine. Il y a une peine physique, des fois c'est vraiment important, mais c'est la douleur, la souffrance psychique qui nous ajoutons sur la peine physique qui est déjà pénible, que nous voulons remettre en question. Et d'analyser et de voir nous observer faire. Si nous faisons cela déjà avec les plus petites situations, plus accessibles de la vie, nous pouvons comprendre plus facilement Jésus quand il dit que même les souffrances d'autres personnes n'est pas exactement ce que cela semble être. Ça demande un vrai niveau de maturité ou de compréhension spirituelle quand même pour comprendre son point de vue, ce qu'il ressent au moment quand il essaie d'aider quelqu'un qui est souffrant, parce qu'il est là pour aider chacun, sans exception, ses enfants, ses animaux qui sont maltraités, traités de la façon la plus barbare, ouais, parfois. Il est là aussi pour eux, pour les aider à ressentir autre chose en même temps qu'il se produit le pire ici dans l'illusion. Je lis ici, c'est compliqué, tout a un sens, le plus avec des activités humaines, mais en même temps, c'est une nouveauté qui me plaît et me rend plus légère. Oui, il y a aussi une autre possibilité dans cette leçon. de ressentir plus de légèreté. C'est-à-dire, si j'ai tort pour tout ici, ça pourrait être aussi très libérateur. Parce que la façon dont moi j'ai vécu des choses ici sur Terre m'a mené très souvent vers beaucoup de douleur, un sentiment de perte, de trahison, d'abandon, des expériences très douloureuses. Si j'imagine pour un instant que peut-être j'ai eu tort pour tout, qu'il y a il y a autre chose, il y a une autre façon d'avoir vécu et de vivre ces choses-là maintenant, cela m'offre vraiment une toute nouvelle possibilité et perception. Et c'est dans ce sens-là que cette leçon, au lieu de nous rendre inconfortables, peut nous offrir vraiment un genre de façon de nous évader, d'échapper à la douleur de ce monde. De savoir à chaque instant, les choses n'ont pas cette signification. Il se passe autre chose à chaque instant. Et essayons de croire dans notre guide ici et vraiment de ressentir sa présence. Comment on peut dire, ce n'est pas n'importe qui est en train de nous apprendre ici. Nous sommes des apprentis de qui? De Jésus. D'accord. Donc, oui, il demande un certain engagement, mais pas trop dans un premier temps, pour les expérimenter peut-être un peu plus. Mais on peut lui faire confiance. Il y a une autre façon de vivre des choses. Je vois que Monique a ouvert son micro.
Oui, bonsoir tout le monde. Je voudrais savoir si j'ai bien compris tes explications. Voilà ce que j'ai compris. Surtout avec les dernières paroles là, concernant la souffrance, etc. Quand tu parles parfois que le cours en miracle est comme... Les mots sont peut-être pas justes, mais je les dis comme elles me viennent. C'est une sorte de psychanalyse spirituelle, où petit à petit, on va pouvoir déstructurer, démolir, démonter le monde que mon ego a créé par les conditionnements, par tout ce qui m'a été amené de vivre et puis qui a été interprété et puis peut-être aidé aussi par les conditionnements de la société, des parents, etc., et de moi-même. Pour les explications que j'ai pu me donner pour me consoler ou pour au contraire me créer des situations difficiles où j'ai cru que l'autre m'attaquait alors qu'en fait je m'étais mise dans une situation, j'avais créé quelque part une situation d'humiliation ou autre. Donc par rapport à tout ça, pour me résumer, la proposition du cours en miracle, c'est de sortir de ce monde, j'allais dire, trompeur, illusoire, pour voir dans l'esprit juste le monde qui est vrai. Et à ce moment-là, il me semble que c'est là que le miracle peut venir, dans la mesure où il n'y aura plus de parasites de l'esprit faux.
Très bien dit, Monique. Vraiment, je ne pourrais pas le dire mieux que cela. À cela, j'ajouterais juste que oui, Kenneth disait très souvent que c'est une psychothérapie spirituelle, tout à fait. J'ajouterais que ce n'est mais ce n'est pas c'est un travail intellectuel à un certain niveau, mais dans le but de le ramener vers l'expérience. J'ai vu trop de fois les étudiants rester juste dans l'intellect. Et donc, je reviens sur ça puisque quelqu'un a fait cette réflexion tout à l'heure, à juste titre. Donc, oui, c'est exactement ce que tu as dit. J'ajouterai juste l'élément vraiment expérientiel pour revenir à une expérience de paix en observant nos réactions. Kenneth nous disait, mais combien de fois? Look at your reactions. Look at your reactions. Observez vos réactions. Observez vos réactions. Ce qui veut dire, observez ce que nous ressentons. Ben, le ressenti, c'est des émotions, ce que nous avons ici. Après, nous essayons de le comprendre là pour savoir quelles erreurs, quel est le paradigme de pensée, le schéma de pensée qui m'a emmené vers cette expérience. Mais l'idée, c'est de libérer ça par ça. pour aller encore au-delà vers la transcendance du petit soi. Effectivement, c'est ça.
Oui, c'est ce que j'entendais quand je disais une analyse, c'est-à-dire que à un moment donné, j'ai fait l'expérience, c'est pour ça que je le ressens, de voir que j'ai vécu un truc que j'ai construit de toutes pièces inconsciemment, mais parce que je ressens que je me suis trompée moi-même.
D'accord.
Voilà,
Tu
donc
as
c'est
pu.
pas intellectuel, c'est
Ouais, excellent.
un ressenti où je vois que je me suis viandée toute seule.
Et le ressenti à la fin, c'était
Ouais.
d'un sentiment d'apaisement ou d'allègement de quelque chose?
Ah, tout à fait, mais comme quand on fait une analyse thérapeutique, il y a ce moment où on se sent libéré parce qu'en fait, eh bien, on voit qu'on s'était trompé et que c'est pas si grave que ça, c'est juste un jeu de la vie comment dire, un jeu de miroir, par exemple, où je me suis vue déformée alors que je ne le suis pas, par exemple.
Excellent, mais c'est tout à fait ça. Merci pour ta contribution. Oui, ça peut peut-être clarifier pour d'autres personnes ce que c'est la nature de ce chemin.
Et alors, tu parlais tout à l'heure des 8 tomes de Kenneth pour les leçons.
Oui.
J'ai trouvé plusieurs de tous ces ouvrages, mais pas ces ouvrages sur les leçons.
Je peux vous montrer un exemple ici, si je peux l'attraper.
Et s'il est possible de
Ah,
se les procurer?
c'est en anglais. C'est en anglais.
Ah,
Donc,
c'est en anglais.
oui, c'est ça.
D'accord.
C'est ça le deuxième tome.
Mmh.
Et donc, il faut savoir que c'est écrit tout petit.
Ah, c'est
Donc,
ça qui
il
est
y a une
seulement en anglais.
quantité absolument prodigieuse. C'est
D'accord.
immense, cette œuvre qu'il a faite sur les leçons. Ce serait compliqué pour n'importe qui
D'accord.
de lire tout ce qu'il a écrit sur chaque leçon. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de faire une synthèse de tout cela.
Ah, merci de nous faire la transmission, puisque je ne lirai pas en anglais,
Oui.
même si je les avais.
Oui, non, mais oui,
Merci.
il n'y a pas de souci, avec plaisir.
En tous les cas, merci pour la séance de ce soir parce que ça m'a bien synthétisé pas mal de choses.
OK, Monique, merci beaucoup. Donc, je lis à partir de la part de cette personne qui était angoissée tout à l'heure. Merci infiniment pour la méditation. L'angoisse s'est dissipée et remplacée par la paix. C'est la première fois que la phrase « Préfères-tu avoir raison d'être heureux » prend un sens, une brèche s'est ouverte dans mon esprit. Super. Merci beaucoup. Tu me rassures. Je n'aurais pas aimé te laisser, ça m'aurait vraiment chagriné de te laisser comme ça. Donc merci aussi Catherine qui dit c'est un grand soulagement de se rappeler cette première leçon. J'ai pu ressentir le jeu des esprits qui se croient séparés et qui viennent projeter des illusions de séparation en se rencontrant. Merci. OK, merci pour vos remerciements. Il y a une paix infinie qui en découle, pas d'inconfort particulier, mais alors utiliser son corps comme on utilise un stylo, c'est point d'interrogation avec un point d'interrogation. Exclamation, interrogation, pas d'inconfort particulier, mais alors utiliser son corps comme on utilise un stylo. On ne va pas les utiliser pour le même but, c'est clair, mais on peut utiliser notre corps avec la même légèreté qu'on utilise un stylo, c'est-à-dire d'être aussi peu attaché à un stylo que aussi peu attaché à notre corps qu'un stylo. Certaines personnes adorent le stylo Montblanc. Je crois que c'est une marque. Il y en a d'autres probablement encore plus chères que la marque Montblanc. Et ils donnent une immense valeur à une plume, un stylo. Et il se donne une valeur avec une plume, tout comme on se donne une valeur avec notre corps. Donc, Jésus voudrait qu'on remette en question la valeur que nous avons donnée à ces choses. Et effectivement, voir que notre corps, la seule utilité de notre coror, c'est un outil de communication selon nos cours. Mais là, on peut voir toute la signification que nous avons donnée à notre corps. Ah oh, mince, j'ai pas vu l'heure passer, excusez-moi, on est déjà bien au-delà de l'heure et je continue à bavarder. Donc, je vais me couper le cours, ce n'était pas spécialement intéressant ou important. C'est juste pour dire qu'on peut voir, observer toute la valeur que j'ai donnée à mon corps et remettre ça en question. Très bien, chers amis, je vous ai gardé très longtemps ce soir. Donc, ouvrons nos micros comme selon notre habitude et disons nos au revoir. Voilà, je compte sur 5 et on dit nos au revoir. On se souhaite une très bonne semaine chacun au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Donc, 5, 3,
Au revoir.
4, au
Au
revoir. Au
revoir. Bonne semaine. À la
revoir.
semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Au
Merci
revoir.
beaucoup. Bonne soirée.
Merci.
Très bonne semaine.
Merci. Merci. Merci.